bienvenue à tous sur le podcast Parenthème. Parenthème, c'est le podcast qui parle enfin des sujets tabous pour être et devenir parent. Il existe un très grand nombre de podcasts pour accompagner les parents au quotidien avec leur enfant, mais sur les thèmes délicats et douloureux, il n'en existe pas. Comme c'est ma spécialité professionnelle, de nombreuses demandes m'ont été faites pour proposer un podcast pour les parents sur ces thèmes si difficiles de la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de ce chapitre consacré à l'éco-anxiété. Et cet épisode va essayer d'aborder la spécificité de l'éco-anxiété par rapport aux troubles anxieux habituellement définis et tels que nous l'avons vu dans le second chapitre de ce podcast. Comme je vous l'expliquais en introduction, l'éco-anxiété est un terme qui est apparu relativement récemment avec des publications scientifiques de plus en plus importantes à partir de la fin de la pandémie, et pour l'instant, en tout cas en mars 2024, une absence de consensus. Il y a en fait deux approches, deux compréhensions de l'éco-anxiété. Tout le monde est d'accord pour constater qu'elle existe, mais c'est la compréhension de celle-ci, le sens de ces troubles qui ne fait pas l'unanimité. Il y a d'un côté, pour faire simple, les professionnels qui considèrent que c'est un trouble anxieux. Alors, je vous expliquais dans l'épisode précédent que la classification internationale des troubles mentaux, le DSM, ne l'a pas encore inscrite comme un trouble anxieux spécifique. Mais l'association américaine qui publie le DSM et qui s'appelle l'APA, American Psychological Association, en a proposé une définition tout de même pour parler de peur chronique d'une catastrophe environnementale. Mais pour l'APA, ça n'est ni un syndrome ni une pathologie psychiatrique au même titre que les troubles anxieux. En tout cas, pour l'instant, et je suis extrêmement prudente parce que nous sommes en mars 2024, les choses évoluent de façon assez impressionnante en raison des études qui sont publiées. Nous avons vu qu'avec la publication internationale faite par Venancet en 2021, il y avait un très grand nombre de jeunes, près de 45% de la catégorie des 16-18 ans, qui présenteraient des troubles anxieux liés au contexte écologique. Donc, il y a des enjeux en termes de santé mentale qui peuvent faire que ce trouble vienne à passer de la catégorie de manifestation de peur par rapport à un environnement à la catégorie de troubles anxieux spécifiques. J'en profite ici pour expliquer que l'éco-anxiété est souvent confondue avec un autre terme, la solastalgie, qui est un terme inventé par un philosophe australien, Glenn Albrecht, pour désigner tout un sentiment de détresse et d'angoisse ressenti par certains individus face aux transformations négatives subies par l'environnement. La solastalgie, c'est véritablement le deuil d'un monde que l'on a connu qui est en train de disparaître. Et la différence entre solastalgie et éco-anxiété, c'est peut-être, pour faire simple, ce rapport au temps. Dans l'éco-anxiété, c'est une projection par rapport à ce qui va arriver, alors que dans la solastalgie, c'est vraiment une émotion a posteriori liée à la perte de notre environnement familier. Pour Laïla Benoît, qui est une des principales chercheuses francophones sur ce sujet, l'éco-anxiété, elle est suscitée par l'inaction climatique, plutôt que par le changement climatique en lui-même. Elle va se traduire par des troubles anxieux qui sont liés à ce sentiment d'insécurité face à une menace écologique qui est annoncée, qui est désormais bien présente. On voit les images, on a des chiffres particulièrement précis et inquiétants. Et il est certain que l'être humain, et particulièrement l'enfant qui n'a pas du tout les ressources cognitives d'un adulte pour pouvoir se représenter les ressources, les perspectives dans l'avenir, ne supporte pas l'incertitude et se retrouve très rapidement débordé par un sentiment d'impuissance face aux catastrophes qui ne cessent de s'accumuler les unes après les autres. L'impact des images est très probablement un facteur de résonance intense pour les jeunes et les adolescents, parce que ce ne sont plus que des mots. On voit les glaciers fondre, on voit les tempêtes, on voit les effets de la canicule, il y a les images des populations qui doivent quitter leur lieu de vie parce qu'ils ne sont plus du tout en sécurité, tous ces animaux, toutes ces espèces qui disparaissent, enfin la liste est extrêmement longue et permet de comprendre que tout ce contexte-là soit particulièrement insécurisant. Et ce point-là conduit un très grand nombre de professionnels à considérer que l'éco-anxiété ne doit pas du tout être psychiatrisée, parce qu'au contraire, c'est une réaction totalement adaptée, normale, saine, face au dérèglement climatique. C'est une preuve, disent certains, de rationalité, de lucidité dans un monde qui ne l'est pas. C'est comme si l'enfant, l'adolescent, était face au principe de réalité et qu'il réagissait, certes, avec des réactions émotionnelles particulièrement difficiles, voire douloureuses, mais de façon totalement adaptée par rapport à tout un contexte de vie anxiogène où les dérèglements de toutes sortes s'imposent à lui au quotidien. Donc ça, nous le verrons dans l'épisode suivant sur l'importance de bien reconnaître ces troubles-là pour pouvoir les accompagner au mieux en tant que parent et en tant que professionnel. Parenthème, un podcast conçu par vous et pour vous. À tout bientôt.